Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Bienvenue à cette édition du journal. La joie était au rendez-vous à la prise de fonction canonique d'Emmanuel Langonangoti, nouvel évêque de Wamba en Ituri. La cérémonie présidée par le cardinal Ambongo a eu lieu hier à Mambasa devant plus d'un millier de fidèles. Au Nord Kivu, 59 écoles de Massissi viennent de bénéficier d'une vaste opération de réhabilitation et d'équipement. C'est dans le cadre d'un projet mis en œuvre par Work Child avec l'appui financier de l'UNICEF. L'impact du changement climatique sur la paix, la sécurité, le travail des femmes et des jeunes artisans de la paix, c'est le thème de l'atelier que l'ONG Centre Féminin de Formation et d'Information pour le Développement, CFID, organise à Mbujimayi. Nous en parlons avec sa coordonnatrice, Gertrude Ndayabiaya. Madame, Monsieur, bonjour. En Ituri, le nouvel évêque du diocèse de Wamba, Emmanuel Langona Ngoti, a pris officiellement ses fonctions hier dimanche. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, représentant le pape Léon XIV au stade de la paroisse Saint-Rosaire à Mambasa. Plus d'un millier de fidèles venus de partout ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Reportage Martial Kizabiamungo.
C'est à ces rythmes festifs que plus d'un millier de fidèles venus de partout ont assisté à la prise de possession canonique du diocèse de Wamba par son nouvel évêque Emmanuel Ngona Ngoti. Le cardinal Fridolin Ambongo, qui a célébré la messe, a appelé les fidèles à l'unité autour du nouvel évêque en étroite collaboration avec les autorités civiles et militaires pour la paix dans cette région affectée par l'insécurité.
Que votre ministère soit marqué par la proximité, la réconciliation, la sollicitude.
Le général Antoine David Mushimba, commandant de la 32e région militaire, représentant du gouverneur des provinces, a plaidé au prix du pape Léon XIV à revoir la délimitation du diocèse à Ituri, vu la densité démographique que représente cette province. L'occasion pour ces hauts officiers militaires de demander à la population de Mambasa à se désolidariser des manipulateurs qui collaborent avec les ennemis de la paix pour endeuiller cette partie de l'Ituri au profit de leurs intérêts personnels. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous restons en Ituri au chef de la province, cette fois à Bounia. La prolifération des officines pharmaceutiques s'observe à presque tous les coins de rue, souvent en violation des normes en vigueur. Plusieurs vendeurs n'y disposent ni de diplôme ni de formation dans le domaine de la santé. Conséquence, la santé des habitants est de plus en plus exposée dans cette ville qui compte près de 2 millions d'âmes. Laetitia Viacuno s'est penchée sur cette situation.
Dans presque chaque avenue de la ville de Bounia, une pharmacie est installée où les médicaments se vendent comme des simples marchandises. Au centre-ville, entre 5 et 10 officines peuvent se retrouver sur une distance de 100 mètres, notamment en rond-point Picnic et de Martyrs. La plupart des vendeurs n'ont aucune formation dans le domaine de la santé pour orienter correctement le malade. Une situation qui constitue un véritable danger dans un contexte où de nombreux habitants recourent à l'automédication sans prescription médicale. David Poutou, inspecteur à la division provinciale de la santé, tire la sonnette d'alarme.
C'est un problème de réglementation. Comme vous pouvez voir, il y a combien de personnes qui n'ont jamais été, même pas à l'école d'infirmière.
Cette situation n'est pas sans conséquences. Elle expose la population à des risques sanitaires importants, administration des traitements inappropriés, surdosage pouvant aggraver les maladies, voire entraîner la mort des patients.
Lorsqu'un patient se présente, après avoir exprimé sa plainte, soit vous n'êtes disposez pas des médicaments appropriés, soit vous lui administrez des traitements qui ne correspondent pas à sa maladie.
Face à cette situation, les professionnels de la santé appellent les services compétents à réglementer strictement ces secteurs afin de protéger la population. Bounia, Laetitia Viacuno, Radio Okapi.
Nous sommes au Nord Kivu. 59 écoles du territoire de Massissi viennent de bénéficier d'une vaste opération de réhabilitation et d'équipement. C'est dans le cadre du projet Education Cannot Wait. Entendez, l'éducation ne peut pas attendre au programme mis en œuvre par l'organisation World Child avec l'appui financier de l'UNICEF. Ce projet vise à offrir un cadre d'apprentissage digne à des milliers d'enfants de ce territoire affectés par des violences armées. C'est la joie du côté des écoles, nous dit Rosalie Zawadi.
À l'école primaire 1 de Massissi, le directeur Bandou Muhombo s'est réjoui de voir son école transformée. Elle a bénéficié des 6 nouvelles salles de classe et 4 latrines en matériaux semi-durables.
Les salles de classe qui étaient ici étaient en mauvais état. Les enfants s'asseyaient mal, mais quand il a songé à ça, vraiment nous sommes très réjouis. Dans ces 6 salles de classe, il va y mettre 21 pupitres, il va y mettre aussi un tableau et la table pour l'enseignant.
Le soulagement est aussi du côté des autorités scolaire. Faïda Nyamulinduka, responsable de la sous-division de l'EPST Massissi 1, voit dans ses réhabilitations un souffle nouveau pour l'éducation dans sa juridiction.
La construction ou la réhabilitation de ces écoles va contribuer sur la qualité de l'enseignement dans notre milieu. Je demanderai aux autres partenaires de venir nous aider car notre sous-division a connu beaucoup de problèmes. Il y a des écoles qui avaient été utilisées comme champ de bataille. Les pupitres ont été utilisés comme des bois de chauffage. Jusqu'à présent, il y a des écoles. Lorsque il lui plaît, les enfants doivent rentrer.
Les enseignants de cette zone ont également été formés et accompagnés psychologiquement pour mieux faire face au traumatisme du conflit. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Parlons des actes de naissance à présent au Kasaï central. Certains parents n'accordent pas d'importance à ce document. Cette situation est due notamment au manque d'informations sur son utilité, mais aussi à la négligence. Le service de la population, la division provinciale de l'intérieur, rappelle que l'acte de naissance est capital, car il garantit le droit de l'enfant à l'identité. André Katendengala Mundoumé nous décrit la situation sur place.
Dans la ville de Kananga, comme dans plusieurs territoires du Kasaï central, de nombreux enfants ne disposent pas d'acte de naissance. Au-delà de la carence des formulaires dans certaines zones de la province, les parents portent également une part de responsabilité. Certaines mères, une fois sorties de la maternité, oublient d'effectuer les démarches pour obtenir ces documents. C'est le cas de Rose Mbouyi, rencontrée au quartier industriel dans la commune de Kananga. J'ai 3 enfants, un seul possède un acte de naissance. Avec les travaux ménagers, je ne trouve pas le temps d'aller les chercher. De nombreux parents sont dans la même situation que Rose. Ils ne cherchent ces documents que lorsque certaines démarches administratives l'exigent, notamment en cas de succession ou des voyages à l'étranger. Face à cette situation, Sébastien Kassaou, chef de bureau provincial chargé de la population à la division provinciale de l'intérieur, encourage les parents à faire enregistrer leurs enfants à l'état civil dans les 90 jours qui suivent la naissance. Passé ces délais, précise-t-il, l'obtention de l'acte de naissance nécessite un jugement supplétif impliquant des frais supplémentaires. Selon lui, l'acte de naissance protège l'identité de l'enfant. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Kapi.
Merci André. La lutte contre les violences basées sur le genre s'est invitée au cœur des échanges samedi à Mbujimayi entre des responsables des structures d'encadrement des femmes et l'équipe du projet Transforme. C'est à l'occasion de la journée de la clôture des activités du mois de la femme au Kasaï oriental. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs zones d'ombre liées au processus de financement des femmes en micro-entrepreneurs afin de garantir aux bénéficiaires un accès effectif à leurs droits. Explication Esther Dalafina.
Intervenant devant les participants, Chantal Simba, chargée du genre et des violences basées sur le genre au sein du projet Transforme, a mis en lumière les risques d'exploitation sexuelle, de harcèlement et d'abus auxquels les femmes peuvent être confrontées dans le milieu entrepreneurial.
Que les femmes connaissent leurs droits et qu'elles puissent aussi dénoncer les abus qui sont causés, soit par le personnel du projet, soit par leurs conjoints, pour bénéficier d'une prise en charge adéquate.
Les responsables des structures d'encadrement ont à leur tour été mandatés pour relayer cette sensibilisation auprès des micro-entrepreneurs bénéficiaires du premier cycle de financement. Alphonsine Kabissa, coordonnatrice du collectif pour l'émergence des femmes du Kasaï, a expliqué l'importance de renforcer la vigilance communautaire.
Nous avons parlé des canaux de dénonciation. Nous allons aussi sensibiliser nos membres. Les équipements qu'on donne gratuitement, on n'a pas besoin de faire l'échange avec les sexes.
Selon les données du projet, plus de 4000 femmes micro-entrepreneurs de Mbujimayi ont été retenues pour recevoir un financement en nature en fonction des métiers qu'elles exercent. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Maniema, 2 creuseurs artisanaux membres d'une même famille sont décédés samedi dans un glissement de terre survenu sur le site minier de Moussoussa Sud, dans les territoires de Kailo. Un autre grièvement blessé est admis dans une structure sanitaire de la place. Son état est jugé critique d'après des sources médicales. L'ONG Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité, Agirec, appelle à l'implication urgente des autorités car ce drame est le 14e enregistré cette année. Selon son coordonnateur, il est inadmissible que des familles continuent de perdre leurs proches dans ces conditions. Samuel Ramazani, Alimassi, joint par Florence Kizalunga.
C'est le 14e cas en peu de temps de mort d'hommes par éboulement dans la province du Maniema. Les trois victimes appartiennent à une même famille et travaillaient dans un puits en exploitation artisanale de la Castérite au moment du drame. Les premières analyses attribuent cet incident à l'absence de suivi et de contrôle des agents du CEMAP sur le terrain. Cette situation récurrente dans la zone, ces manquements seraient aggravés par le non-paiement prolongé de ces agents, compromettant leur présence effective et leur encadrement des creuseurs. Cette négligence expose les travailleurs à des risques très élevés et entraîne régulièrement des pertes en vies humaines, pourtant évitables. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la recrudescence des incidents mortels dans le site minier du Maniema. Ces drames répétitifs résultent d'un manque criant de responsabilité, d'un laxisme administratif et de l'impunité persistante des agents chargés de l'encadrement. Les autorités provinciales doivent agir immédiatement pour mettre fin à cette situation dramatique.
Nous sommes à Kinshasa à présent, dans la commune de Lancélé. L'état de certaines routes se dégrade, cela rend difficile la mobilité des habitants et l'accès à plusieurs quartiers. À Kinkolé, l'avenue Kankenza, située entre les quartiers Montélé et Sikotra Lokali, pourtant stratégique, est aujourd'hui impraticable, notamment en cette période de pluie. Entre le délabrement de la chaussée, l'absence du caniveau et la pression des eaux de ruissellement, cette voie d'accès risque d'enclaver le quartier et cette situation impacte directement la vie quotidienne des riverains. DDT avec Christian Makassinga.
La cité de Kinkolé, réputée pour son attrait touristique et ses paysages apaisants en bordure du fleuve, reste l'un des coins le plus accueillant de la commune de Lancélé. Chaque week-end, ses routes facilitent la mobilité des habitants et des visiteurs venus profiter de ces cadres naturels uniques. Cependant, derrière cette image attrayante se cache une autre réalité. L'avenue Kakenza présente aujourd'hui un état préoccupant. Cette route qui relie plusieurs points importants du quartier, notamment les sites des sinistrés des Pakajuma, l'hôpital général de référence de Kinkolé, les magasins d'approvisionnement ainsi que des centres de santé se dégrade davantage sous l'effet des pluies et du manque d'aménagement adapté.
Les eaux de ruissellement sont en train de menacer sur cette avenue Kakenza. C'est ce qui fait que lorsque la pluie tombe, cette avenue est vraiment menacée.
À cela s'ajoutent des déchets accumulés le long de la route, du boulevard jusqu'au fleuve, entraînés par le pluie vers les zones habitées, rendant l'environnement insalubre et bloquant le passage des véhicules, y compris pour les interventions sécuritaires.
Si seulement on la réhabilite, ça fera en sorte que lorsque le quartier est attaqué, l'intervention peut venir et on pourra bien contenir les assaillants qui seraient en train de cambrioler les paisibles citoyens.
Face à cette situation, les habitants lancent un appel aux autorités pour l'aménagement de caniveaux solides, des collecteurs capables de canaliser les eaux et de protéger cette voie d'intérêt public essentielle pour la déserte du quartier.
Restons sur les routes avec cette interdiction faite aux mineurs et aux femmes enceintes à terme de circuler sur des taxis moto à Kinshasa. Ceci découle de l'édit portant en réglementation du transport par taxi moto voté vendredi par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Que retenir à ce sujet, Ella Chimbalou?
L'édit introduit des interdictions visant certaines catégories d'usagers, ce notamment les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes au dernier trimestre, les personnes en état d'ivresse, les personnes âgées non accompagnées. Le texte, initié par le député provincial Nicolas Wemankoy, a été adopté à l'unanimité. Le conducteur des taxis moto, communément appelé Wewa, assure la mobilité quotidienne de nombreux Kinois. Cependant, ils sont accusés d'être à la base de cas d'accident. Selon les textes adoptés par les élus provinciaux, les motards effreignent ces dispositions s'exposent à des sanctions, dont des amendes et la mise en fourrière de leurs engins. Le législateur a prévu une période de sensibilisation des motards avant l'application des sanctions préconisées. Par ailleurs, ces textes attendent sa promulgation par le gouverneur de Kinshasa avant son entrée en vigueur.
Actualité internationale.
La journée de dimanche 26 avril hier donc a été particulièrement mouvementée au Mali, quelques jours seulement après le lancement d'attaques coordonnées menées par les rebelles du Front de Libération de l'Azawad et des groupes djihadistes. Dans ce climat sécuritaire dégradé, les autorités de Bamako ont reconnu la mort du ministre de la Défense, un événement qui accentue les inquiétudes quant à la stabilité du pays.
L'invité.
Il s'agit de la coordonnatrice du Centre féminin de formation et d'information pour le développement CFIDE basé à Mbujimayi. Cette structure organise à Mbujimayi même un atelier de 2 jours sur l'impact cumulatif du changement climatique sur la paix et la sécurité, ainsi que sur le travail des femmes et des jeunes artisans de la paix. Gertrude Ndaya Biaya s'entretient avec Esther Ndalafina.
Madame Gertrude Ndaya Biaya, bonjour.
Bonjour, madame Esther.
Le Centre féminin d'information et de formation pour le développement organise un atelier de 2 jours sur l'impact cumulatif du changement climatique sur la paix et la sécurité en RDC, cas du Kasaï oriental. Pourquoi ce thème?
Au fond, cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité. Pourquoi parler du changement climatique dans ce cadre? Parce que le changement climatique impacte d'une manière ou d'une autre la paix, la sécurité, le travail des femmes, le travail des jeunes. Voilà pourquoi nous avons choisi cette thématique-là. C'est pour analyser et élaborer des stratégies qui puissent nous permettre d'atténuer les impacts négatifs sur la paix. Comme vous savez, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies traite justement des questions de paix, de sécurité, des questions des femmes. Nous voulons dans cet atelier d'abord identifier les manifestations majeures du changement climatique ici chez nous et voir comment est-ce que ces manifestations sont en train d'impacter la paix, la sécurité des femmes, des jeunes filles. Et nous voulons également, à l'occasion de cet atelier, élaborer des stratégies pour trouver des mesures d'atténuation de ces effets-là sur la paix et la sécurité. Parce que comme vous le savez, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et les populations, les communautés se retrouvent en insécurité. Ça ne permet pas à la communauté de pouvoir se développer.
Comment le changement climatique peut impacter la paix et même la sécurité?
70% des femmes au Kasaï oriental travaillent dans le secteur agricole. Donc elles font de l'agriculture, elles font de l'élevage, etc., etc. Maintenant, avec le changement climatique, nous vivons des phénomènes tels que la pluviosité a vraiment augmenté. Donc, le calendrier agricole est perturbé. On ne sait plus trop bien quand semer quoi. Avant que nous n'arrivions à ces perturbations climatiques, il y avait un calendrier agricole bien connu. Les agriculteurs pouvaient s'adapter et planifier leurs activités comme il se doit. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. On ne maîtrise pas le calendrier agricole. L'abondance de pluie là fait parfois pourrir les cultures, ce qui fait que la production agricole pose problème. Donc les pluies ont déranger les productions agricoles. Ça perturbe la quiétude, les revenus diminuent, ça crée une instabilité dans les ménages. Alors, en dehors de ça, il y a aussi la sécheresse, par exemple. Les sites subissent de plus en plus les effets de la sécheresse. Les populations risquent aussi de se déplacer et d'aller chercher là où il y a des meilleures terres pour cultiver, pour nourrir leur bétail, etc. Et il peut y avoir dans ces mouvements des populations l'empiétement sur des terres qui appartiennent à autrui. Et ça crée des conflits communautaires, les conflits de terres qui nous amènent même à des pertes en vies humaines. Ça crée un déséquilibre dans le vécu quotidien des populations et attaque la paix, quoi.
Alors, ce que CFIDE fera, donc avec les stratégies qui seront adoptées au cours de cet atelier?
Donc, ces stratégies seront pour nous, CFIDE, des éléments de plaidoyer auprès des décideurs, de façon à ce qu'ils puissent tenir compte des besoins de la population qu'ils puissent prendre des mesures d'atténuation des effets du changement climatique et aussi de la promotion de la paix. C'est aussi une façon de la population de participer à la gouvernance locale.
Madame Gertrude Ndaya, merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Esther Balafina.
Gertrude Ndaya Biaya, coordonnatrice du Centre féminin de formation et d'information pour le développement, CFIDE, basé à Mbushimay. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal. Richard Junior Kamunga l'a préparé. La mise en œuvre dessinée, Jean-Claude Ossial. À toutes et à tous, bon début de semaine.